La une ce midi, c'est cette question. Est-ce qu'on travaille le 20 novembre ? Réponse dans ce journal. On ira aussi au tribunal administratif pour parler de la décolonisation. Et puis, on vous donnera aussi des nouvelles de la grève des contrôleurs aériens. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
On commence avec le 20 novembre, c'est jeudi, et tout le monde se pose cette question. Est-ce que je travaille ou pas ?
Voilà, c'est la question de la semaine. Alors toi Sanchez, oui, tu travailleras. Largement posée sur les réseaux sociaux d'ailleurs, et la réponse est compliquée. Que Matarinha devienne férié, on en parle depuis 2023. La date a été longuement débattue l'année dernière, et le gouvernement a beaucoup communiqué ces derniers temps, notamment sur le calendrier des célébrations prévues jeudi. Mais effectivement, qui sera vraiment en férié et qui ne le sera pas ? Eh bien, ce n'est pas si simple. D'autant que jour férié ne veut pas forcément dire jour chômé. Mais certains savaient depuis longtemps ce qui allait se passer pour aujourd'hui, jeudi prochain. Charlie René.
Oui, l'administration du pays et ses établissements publics ne travailleront pas pour le nouveau jour férié. Si ça n'était pas assez clair lors des débats à Taraoï le 6 mai dernier, un arrêté est venu le confirmer le 26 juin, trois jours avant l'ex-fête de l'autonomie, comme pour rappeler au potentiel récalcitrant sa disparition. La DG2E, elle aussi, a rayé ce jeudi 20 novembre des calendriers scolaires en octobre, et le Haut Commissariat a déclaré un repos pour cette fête de l'abondance, pour les fonctionnaires nationaux mais aussi pour les communes par un arrêté du 7 novembre, un texte qui peut paraître tardif mais qu'importe puisque le 29 juin était tombé un dimanche cette année.
Mais c'est dans le privé que ça se complique car le Code du travail ne fait pas tout et ne consacre que le 1er mai comme jour obligatoirement férié, chômé et payé. Pour le reste, c'est du côté des conventions de branche qu'il faut regarder, et s'il n'y en a pas le 20 novembre et par principe travailler, sauf accord d'entreprise, s'il y a une convention de branche, on peut bien ou mal tomber, car certaines de cette convention listent toujours le 29 juin comme férié et pas le 20 novembre.
C'est le cas dans le commerce, l'imprimerie, la communication, le secteur du gaz ou du transport aérien, certaines entreprises du BTP qui ne sont pas adhérentes à la chambre syndicale du secteur et beaucoup de sociétés hôtelières qui font elles partie du conseil des professionnels de l'hôtellerie seront aussi au travail ce jeudi. Ceux qui pourront légalement profiter des célébrations publiques de Matahari sont tout de même nombreux, l'automobile, le nettoyage, les assurances, les banques, l'industrie ou la restauration entre autres. Attention là aussi, des accords spécifiques d'entreprise peuvent venir changer les règles.
Et il faut préciser que des discussions ont été lancées pour harmoniser les textes, notamment dans l'automobile et le nettoyage, qui vont supprimer le 29 juin de leur liste pour l'année prochaine. Toute la liste des secteurs concernés ou non est à retrouver sur notre site radio1.pf.
Et on parle aussi de ce gros bug internet cette nuit.
Oui, et ceux qui se sont levés tôt l'ont peut-être constaté en essayant d'aller lire leur site d'information préféré, Radio 1 bien sûr. Le site était inaccessible jusqu'à 4h30, comme des milliers de sites dans le monde, à commencer par ChatGPT, le réseau X, certaines applications de Facebook, Spotify ou des jeux en ligne très fréquentés. À l'origine de ce trouble qui a beaucoup inquiété le reste du monde pendant que le Fénois dormait, une défaillance de Cloudflare. C'est un des piliers de la sécurité du web. Il sert notamment à protéger les portails commerciaux et administratifs contre des attaques et à optimiser la disponibilité des sites. Les services de l'entreprise américaine ont été rétablis entre 4h30 et 5h du matin chez nous, mais beaucoup s'interrogent ces dernières heures sur la fragilité de ces systèmes.
Le tribunal administratif va se déclarer incompétent sur le sujet de la décolonisation.
Le président de l'Assemblée de la Polynésie française et le Tavini Wiraatira avaient écrit à Emmanuel Macron pour demander l'ouverture d'un dialogue de décolonisation entre le pays et l'État sous l'égide des Nations Unies. Sans réponse, ils avaient entrepris d'attaquer devant le tribunal administratif ce refus implicite de l'État et de demander à nouveau une réponse sous 3 mois. Et à l'audience ce matin, le rapporteur public a conclu au rejet de la requête. Pour lui, la décision relève d'un acte de gouvernement du président de la République dans le cadre de ses prérogatives en matière d'affaires extérieures, puisqu'on parle des Nations Unies. On écoute la réaction de Maître Millet au micro de Caroline Perdry.
Vous avez clairement, dans cette demande de dialogue de décolonisation, un État français qui refuse le dialogue, aussi bien sur la scène internationale, où il parle d'ingérence et où il refuse que les Nations Unies s'en mêlent, et également aujourd'hui sur la scène interne, dans le cadre d'un débat devant un tribunal interne, où l'État vient nous dire finalement c'est un acte de gouvernement qui relève des relations extérieures, alors que la Polynésie est encore, jusqu'à preuve du contraire, une collectivité française. Donc c'est assez caricatural.
Le rapporteur public considère que la mise en œuvre du processus induit une modification de la Constitution, comme pour la Nouvelle-Calédonie, avec donc une nécessaire intervention du président de la République. On n'en est pas là, s'exclame l'avocat. Tout ce qu'on demande, c'est l'engagement d'un dialogue. Le rapporteur public se retranche donc derrière une incompétence juridictionnelle au nom de la séparation des pouvoirs législatifs et exécutifs et explique aux requérants que la seule voie possible est la voie parlementaire. Richard Tourillava, lui, s'interroge sur la différence de traitement entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Il rappelle surtout que l'objectif est d'épuiser les voies de recours en droit français pour pouvoir porter l'affaire devant la justice internationale.
Moi, ce qui nous intéresse, c'est que politiquement, de l'autre côté, en Nouvelle-Calédonie, vous avez une ministre de l'Outre-mer qui se dépatouille pour essayer de mettre d'accord les loyalistes et les indépendantistes. Et ici, on a le clan indépendantiste qui se retrouve en justice pour demander simplement quasiment la même chose, mais à l'ONU, et c'est niet. Enfin, ce qu'on veut, nous, c'est en finir avec les voies de recours internes en droit français pour que, justement, on soit plus libre au niveau des juridictions internationales.
Et si le 2 décembre prochain, le tribunal administratif suit les conclusions du rapporteur public, il faudra d'abord que le Tavigny et l'Assemblée aillent en cour administrative d'appel de Paris, où les délais sont très longs, puis éventuellement devant le Conseil constitutionnel. Les requérants le savent, on parle de 2 à 3 ans minimum pour avancer sur ce dossier.
Deux requêtes, deux rejets pour l'ancien chef de la police municipale de Tevahi.
Condamné en première instance à 18 mois de prison pour violence familiale, mais pas interdit d'exercer, il s'était tout de même vu retirer son agrément par le Haut Commissariat et avait fini par être renvoyé par la commune. Deux décisions qu'il avait attaquées en référé et que le tribunal a rejetées. Il reste encore deux nouvelles audiences dans cette affaire, celle du recours au fond que ce policier a également entrepris contre ses décisions administratives et celle de l'appel au pénal, cette fois du parquet, qui a jugé la condamnation en première instance trop légère à son goût.
Et puis on vous donne aussi des nouvelles du préavis de grève des contrôleurs aériens.
La réunion de conciliation qui s'est tenue hier après-midi n'a rien donné, nous a expliqué la représentante du syndicat USAC CGT, Tiarama Le Hartel. Les contrôleurs aériens s'apprêtent donc à entrer en grève à minuit ce soir. En raison de la situation de sous-effectifs, ils sont déjà en configuration de service minimum, soit 9 contrôleurs opérationnels par jour. Seule différence, donc, le service d'État de l'aviation civile sera obligé de demander des abattements de trafic. Tiarama Le Hartel veut rassurer, ni les vols internationaux ni les Evasan ne seraient touchés, mais les horaires des vols domestiques pourraient eux être modifiés.
Dans l'actualité aussi ce mardi, on parle de ce concours annulé pour des assistants sociaux.
7 assistants sociaux avaient commencé à passer les épreuves pour monter en grade et devenir assistant socio-éducatif principal. Ils avaient participé aux écrits le 16 septembre dernier, mais deux jours plus tard, une délibération a été adoptée à l'Assemblée pour reconnaître les assistants socio-éducatifs comme agents de catégorie A. Dans ce texte, il y avait bien des mesures transitoires pour les agents déjà en poste, mais rien pour ceux qui avaient commencé à passer les épreuves du concours et l'administration a donc purement et simplement annulé les examens. Une annulation qualifiée de bévue monumentale par le syndicat de la fonction publique. Il parle d'une procédure entachée de vice de légalité majeure. Le syndicat demande donc au pays d'annuler l'annulation des épreuves écrites et de reprendre la procédure d'examen jusqu'à son terme. Il parle d'une affaire qui pourrait coûter entre 30 et 50 millions de francs au pays au contentieux. Une réunion avec le ministère cette semaine doit décider de l'option choisie par le pays, reprendre le cours de l'examen ou tout recommencer à zéro.
Cette page santé aussi dans ce journal avec la campagne contre la filariose qui est ouverte à Moréa.
La direction de la santé a lancé effectivement hier la campagne annuelle contre la filariose à Moréa. La filariose lymphatique est transmise par les piqûres de moustiques et elle circule toujours sur l'île. Et les signes ne sont pas forcément visibles, c'est pourquoi il est essentiel de traiter toute la population. Il faut donc prendre 3 médicaments devant les professionnels de santé. C'est la prise observée directe ou POD. La distribution est organisée dans les établissements scolaires et dans des points de distribution éphémère, ça va durer jusqu'au 29 novembre.
La presqu'île va pouvoir repasser le code.
Et oui, les épreuves théoriques générales du code de la route étaient suspendues à Taravao depuis 6 mois, en cause un manque d'inspecteurs. Elles ont repris depuis hier, a annoncé le ministère des Grands Travaux. Le gouvernement parle aussi d'un renforcement des effectifs de la direction des transports terrestres.
Et on termine avec cette Marianne polynésienne qui va s'installer au Sénat.
Elle a été dévoilée hier à Paris. La ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, le président du Sénat et de nombreux Tavanas qui sont actuellement à Paris pour le Congrès des maires de France ont pu assister à sa présentation. C'est le sculpteur et peintre Évrard Chaussois qui a remporté le concours lancé par Teva Rofritsch et Lana Tetuanui. Cette Marianne aux traits polynésiens et tiarée à l'oreille sera exposée dans la salle des conférences à l'entrée de l'hémicycle du Sénat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour ce journal. Maintenant, voici la météo sur Radio.